La carte Visa Orange Monnaie, retrait et paiement dans toute la zone UMOA, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose l'émission Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
François Mazet.
Bonjour à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent, nouvelle semaine d'appel sur l'actualité, votre émission pour comprendre le monde chaque matin sur RFI et pour débattre également. Après le prochain journal, dans une demi-heure, nous parlerons du paludisme, la lutte contre la maladie ne progresse plus. L'Organisation mondiale de la santé s'inquiète de ce recul, certains pays connaissent même de véritables épidémies. 239 millions de cas, 435 000 morts sont recensés chaque année dans le monde, 90% dans des pays africains. Nombre d'entre vous sont d'ailleurs en pleine saison des pluies, la plus propice pour les moustiques anopheles, vecteurs de la maladie. Alors que faut-il faire pour éviter sa propagation? Quelles initiatives sont mises en place dans votre pays? Nous attendons vos témoignages par téléphone au 33 9 693 693 70. Vos messages sur WhatsApp 33 6 89 28 53 64 et bien sûr sur la page Facebook de l'émission. Mais d'abord, comme chaque matin, nous tâchons de répondre aux questions que vous vous posez sur l'actualité. Première en ligne, Pierre de Yaoundé, bonjour.
Oui, bonjour, François Mazé.
Comment allez-vous, Pierre?
Non, ça va très bien. Je dis bonjour à tous les autres.
Très bien, Pierre. Alors, vous avez des questions hein, suite à une actualité dans votre pays. Eh bien, ce sont les condamnations prononcées la semaine dernière contre des sécessionnistes anglophones, en premier lieu contre leur président autoproclamé, Julius Ayuk Tabe. Allez-y, Pierre, quelles sont vos questions?
Oui, ma première question, c'est de savoir, cette condamnation écarte-t-elle toute possibilité de dialogue entre les autorités et les séparatistes?
Eh bien, pour analyser cette décision de justice et tâcher de vous répondre, nous appelons Fred Eboko. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, chercheur à l'IRD, Institut de Recherche pour le Développement. Alors, 10 leaders hein, sécessionnistes, dont le président autoproclamé de l'Ambazonie, Julius Ayuk Tabe, ont été condamnés à la prison à perpétuité pour terrorisme et sécession. Le procès avait débuté en décembre, après qu'Ayuk Tabe fut extradé par le Nigeria, où il avait été arrêté en janvier 2018. Alors, Fred Eboko, est-ce que cette condamnation de Julius Ayuk Tabe, qui s'est était dit prêt à discuter avec le gouvernement camerounais sous l'égide d'un pays tiers, eh bien, enterre toute possibilité de dialogue.
Alors, bonjour Pierre et bonjour à tous les auditeurs. En effet, cette décision du tribunal militaire de Yaoundé constitue une sentence abrupte et qui paraît sans nuance. C'est un message dur qui est adressé aux sécessionnistes, certes, mais qui a la particularité aussi de troubler une partie des populations et des élites anglophones et des personnalités politiques et civiles qui dépassent le monde anglophone et qui appellent de leur vœu depuis longtemps l'organisation d'un dialogue inclusif. Toutefois, ce jugement, aussi radical qu'il paraisse, n'épuise pas les possibilités de recours de la défense de M. Ayuk Tabe et de ses co-accusés. Leurs avocats ont en effet émis l'idée de faire appel de la sentence après ce qu'ils ont appelé, je les cite, une parodie de justice. Par ailleurs, il reste la possibilité d'une grâce présidentielle qui, comme son nom l'indique, relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. La question centrale au fond qui est posée et qui tourne autour de celle du dialogue est celle de la nature de l'État camerounais, unitaire, fédéral, auquel les sécessionnistes apportent une variable radicale. Le débat, la discussion, le dialogue dit inclusif, nous pourrons faire l'économie de la diversité des options citées plus haut, au-delà même du problème spécifique des sécessionnistes. On ne peut pas dire que le dialogue soit complètement clos. Au contraire, c'est le moment ou jamais d'activer tous les leviers nécessaires pour qu'un dialogue puisse avoir lieu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la question principale ici, qui est posée au régime camerounais, est la question de cette nature de l'État. Et le régime politique camerounais tient comme la prunelle de ses yeux à la situation actuelle, c'est-à-dire à un État unitaire qu'ils disent un et indivisible. À côté de cette option, qui est le statu quo, il y a de plus en plus de personnalités politiques anglophones et francophones qui plaident pour un retour au fédéralisme et qui plaident pour cette option pour aussi couper l'herbe sous le pied des sécessionnistes dans le monde anglophone.
Oui, alors justement, Fred Eboko, Pierre de Yaoundé avait une seconde question pour vous sur ce sujet. Allez-y, Pierre.
N'a-t-il pas un risque de radicalisation sur le terrain ?
Et oui, est-ce que cette condamnation hautement symbolique ne risque pas de renforcer les extrémistes des deux camps, ceux qui à Yaoundé ne veulent pas entendre les revendications des régions anglophones, et puis ceux dans ces régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui prêchent la violence armée, pour pouvoir affirmer que Paul Biya, lui, ne veut pas discuter ?
En tout cas, cette décision a effectivement soulever un courroux, mais ça soulevait un courroux auprès de factions qui étaient déjà relativement radicalisées. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est une décision de justice, mais qui n'épuise pas complètement le procès. Donc la porte est encore ouverte à un dialogue possible. Ce qui se passe en fait, c'est que à travers cette décision, la justice et le gouvernement camerounais, si j'ose dire, mettent les sécessionnistes, si vous voulez, au pied du mur. La marge de manœuvre qui reste est aussi sous la coupe, en quelque sorte, du régime. Aujourd'hui, Ayoub Tabé et ses co-accusés ont été condamnés à perpétuité, ont été condamnés à vie, mais il reste plusieurs possibilités, non seulement par le biais de la justice, mais aussi par le biais d'autres négociations en sourdine qui pourront avoir lieu pour faire reculer, justement, les sécessionnistes. Mais la situation globale est relativement tendue et nécessite justement l'entrée en lice d'autres forces, d'autres voix qui prennent justement ce dialogue inclusif pour mettre un peu à distance les radicaux, si j'ose dire, que ce soit au sein de la branche dure du régime ou au sein des sécessionnistes les plus radicaux. Il y a une nécessité d'impliquer d'autres forces vives et que plusieurs personnalités politiques anglophones et francophones appellent de leur vœu pour qu'il y ait une véritable discussion, pas seulement sur la nature de l'État camerounais, mais aussi sur sa capacité à mettre en place des actions publiques redistributives qui aillent au plus près des citoyens.
Merci Fred Eboko d'avoir été en ligne, chercheur à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement. Merci d'avoir répondu aux questions de Pierre, notre auditeur de Yaoundé. Direction Dakar maintenant. Bonjour Stéphane.
Oui, bonjour François.
Stéphane, vous avez des questions suite à un sujet dont nous avons parlé sur l'antenne la semaine dernière. C'est votre ville Dakar qui est une ville sale.
Oui. Alors, Macky Sall a promis de faire de Dakar une ville propre sous son quinquennat. Cependant, malgré une loi interdisant l'utilisation des sacs plastiques, la capitale sénégalaise est couverte de saleté et de déchets. Ma question est alors la suivante. L'interdiction des sacs plastiques n'a pas fonctionné à Dakar. Pourquoi ? Quelles ont été les alternatives proposées par le gouvernement ?
Mais on va le demander à Edouard Dropsy, correspondant de RFI à Dakar. Bonjour Edouard.
Bonjour François, bonjour Stéphane. Alors, il y a plusieurs raisons à cet échec, notamment parce que dans l'usage, les sacs plastiques n'ont pas été remplacés après leur interdiction en 2015. Pas de sacs en cellulose.
Edouard Dropsy.
Oui.
On vous perd, allez-y, reprenez. Vous nous parliez de l'inefficacité de la loi de 2014 sur l'interdiction des sacs plastiques.
Exactement, donc il n'y a pas eu d'alternatives qui ont été proposées directement, comme des sacs en cellulose. On en trouve toujours des gratuits dans les magasins. Aujourd'hui, il suffit de se rendre dans n'importe quelle boutique à Dakar pour que l'on vous propose des sacs plastiques. Donc cela fait donc plus de 4 ans que ces sacs continuent d'inonder les marchés, les boutiques et évidemment les caniveaux ou les plages. Et en province, c'est pire. En arrivant de Mauritanie, en voiture par exemple, il n'y a pas un mètre où il n'y a pas un sac plastique. Alors, quant aux alternatives, c'est une question d'autorité, surtout me disait Oumar Sissé, le directeur de l'Institut africain de gestion urbaine et spécialiste de la question des déchets. Il estime que la loi interdisant cet usage existe, donc depuis 2015, et qu'il faut tout simplement l'appliquer. Si elle n'existe que sur le papier, elle est inutile. Et donc, en plus de la prise de conscience par les Dakarois de la toxicité des sacs plastiques, il faudrait que les amendes prévues par la loi soient effectives.
Edouard, deuxième question de Stéphane pour vous. Allez-y Stéphane.
Alors, le gouvernement et la mairie de Dakar ont-ils élaboré d'autres mesures pour rendre Dakar et le Sénégal plus propres ?
Alors c'est une question extrêmement politique que vous posez, parce que en fait vous faites état dans votre question et du gouvernement et de la mairie de Dakar. Alors normalement la collecte des déchets c'est une compétence de la municipalité, des municipalités en général, mais il y a une loi de 2004 qui donne compétence à l'État pour le retrait des ordures ménagères. L'idée, comme le disait une personne proche de ces dossiers, c'est que les politiques doivent se faire voir, selon sa propre expression, sur le terrain des déchets. Alors, dans certains quartiers, on voit des citoyens se mettre à nettoyer les rues, les plages ou à déblayer des tas de gravats. tout ça surtout avec l'appui d'ONG locales qui communiquent sur les réseaux sociaux. Il y a également certaines mesures qui ont été prises, comme par exemple en distribuant des poubelles aux Dakarois, mais dans beaucoup de cas, celles-ci étaient utilisées comme réserve d'eau par les familles. Là encore, l'usage a été détourné. Et si l'État a compétence pour cette gestion des ordures, il externalise la collecte. C'est-à-dire que ce sont des privés, avec leurs camions, qui passent dans tel ou tel quartier, et cela peut avoir un impact direct sur la qualité de service rendu aux populations. D'autant que l'autre vrai problème de Dakar est qu'il n'existe pas de déchetterie. Dans les années 60, il y avait un lieu, Mbeubos, loin du centre, qui était une décharge à ciel ouvert, et surtout qui l'est resté. Et aujourd'hui, on estime à 2700 tonnes le nombre d'ordures ménagères déversées chaque jour dans cette décharge.
Merci à vous, Edouard Dropsy, d'avoir répondu à la question de Stéphane à Dakar. On rappelle que lors de son discours de la Tabaski, Macky Sall avait parlé d'un combat national impératif et évoqué des cleaning days, des jours de nettoyage comme cela se fait au Rwanda et qui seront peut-être mis en place dans les mois à venir. Merci Stéphane d'avoir posé vos questions à Dakar, direction N'Djamena maintenant. Bonjour Janvier.
Bonjour François Mazet, je dis félicitations à toute l'équipe d'Appel sur l'actualité.
Merci Janvier, merci pour vos félicitations et pour vos encouragements. Vous souhaitez des précisions sur les dernières avancées de la lutte contre Ebola. Nous vous écoutons.
Oui François Mazet, deux nouveaux traitements contre le virus Ebola ont réduit significativement le taux de mortalité dans le cadre d'un essai clinique réalisé en République démocratique du Congo. De quoi sont composés ces deux médicaments? Et quand seront-ils mis en circulation?
On va le demander à Simon Rosé, bonjour.
Bonjour.
Alors Simon, ce sont des résultats provisoires qui ont été publiés à la mi-août. Ceux d'essais cliniques menés dans l'est de la RDC, mais ils sont assez encourageants. Quels sont ces résultats et comment fonctionnent les médicaments que mentionne Janvier?
Alors comme vous le disiez, c'est un essai clinique qui a été réalisé sur 681 personnes exactement. Et résultats provisoires parce que quand ils ont été annoncés le lundi 12 août, il n'y avait que les résultats de 500 personnes, les données de 500 personnes qui ont été analysées, mais elles étaient prometteuses puisque ces deux nouveaux traitements, donc les noms sont un peu barbares, le premier c'est Regen EB3 et le deuxième c'est MAB114, sont donc des traitements, ce sont ce qu'on appelle des anticorps monoclonaux. Alors, c'est quoi un anticorps monoclonal? Un anticorps, en fait, c'est quelque chose qui est efficace contre le virus. Le problème, c'est qu'on peut pas toujours le reproduire. C'est compliqué à faire. Donc, l'idée, c'est de l'hybrider, le mélanger avec quelque chose qui se reproduit très bien. Ce sont les cellules cancéreuses. C'est ce qui fait des tumeurs. Mmh. Elles se reproduisent sans cesse. Donc, on fait la manipulation, on mélange. Comme ça, on a les propriétés des deux. Un anticorps qui est efficace et qui est capable de se reproduire.
Il faut trouver le bon dosage un peu.
Non, mais bien sûr, c'est contrôlé. On fait pas n'importe quoi. C'est une découverte qui a valu le prix Nobel en 1984 aux découvreurs de cette technique. C'est ce qui a été utilisé lors de cet essai. Il faut savoir que les deux traitements, notamment le ZMAP qui existe aujourd'hui, qui est utilisé en tant que traitement actuel, est également un traitement, un anticorps monoclonal, qui utilise une méthode différente, mais qui est un peu moins efficace. Là, sur les deux, on arrive avec des taux de mortalité qui sont de l'ordre de 29-34%, ce qui est vraiment un net progrès par rapport, si on ne prend pas de traitement, le taux de mortalité de Ebola, c'est entre 60 et 67%. Là, on descend à 29-34%, ce qui est quand même un net progrès.
L'amélioration, ouais.
Avec ces réserves, on est quand même dans un essai clinique. Toutes les données n'ont pas encore été étudiées.
Et justement, Janvier, vous demandez quand ces médicaments seraient éventuellement disponibles pour les personnels soignants. Simon?
Oui, excusez-moi, oui.
Janvier vous a demandé tout à l'heure, oui.
Quand est-ce qu'il sera disponible? La fin de l'étude de ces résultats sera fin septembre, début octobre. Donc, il y en a encore pour quelques mois. Et après, vraiment, les mettre en production, les déployer sur le terrain, il n'y a pas avant plusieurs mois.
Oui, c'est une question de temps long. Janvier, vous avez une dernière question pour Simon Rosé.
Oui, l'épidémie sévit depuis plus d'un an à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, j'aimerais savoir, comment ces médicaments vont-ils endiguer cette épidémie?
C'est toujours un outil en plus d'avoir un traitement. Lutter contre une épidémie, il y a deux techniques. Il y a deux outils dont on dispose. Il y a le traitement pour effectivement soigner les gens et pour qu'ils arrêtent de transmettre la maladie. Mais ce qui est encore mieux, c'est les empêcher d'avoir la maladie. Et pour ça, c'est ce qu'on appelle la prévention. Et c'est donc le vaccin. Donc ces deux nouveaux médicaments, si effectivement sont à la hauteur de leurs promesses, viendront en complément. Mais le nerf de la guerre, dans cette guerre contre Ebola, c'est vraiment le vaccin, le traitement. la prévention sur place et le
vaccin. Prévention, l'identification des contacts,
voilà,
la prise en charge
tout
rapide.
Le travail de terrain, vraiment tout ce qui se fait en matière de prévention, c'est vraiment comme ça qu'on lutte contre une épidémie de cette ampleur.
Voilà, donc le médicament, c'est un outil qui vient s'ajouter à l'arsenal du personnel soignant, mais c'est pas une réponse pérenne, si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit, Simon.
Pérenne, si, mais en complément.
Voilà. Merci, Janvier, d'avoir été en ligne de Jamena. Est-ce que vous êtes satisfait de ce que nous a dit Simon Rosé?
Je dis bravo à Simon et merci beaucoup, François Mazet.
Merci, ouais. Janvier.
Bravo, Simon, et bonne journée. Alassani, bonjour.
Bonjour, François, et bonjour à tous les fidèles auditeurs de la RFI.
Vous êtes à Lomé, au Togo, et vous avez une question football pour nous ce matin.
Justement, François. La Fédération tunisienne de football a mis fin à l'amiable au contrat avec l'entraîneur français Alain Giresse. Alors François, quelles sont les raisons de ce limogeage alors que la Tunisie venait de faire une très bonne prestation à la dernière CAN qui a eu lieu en Égypte? Et quel est le bilan du sélectionneur français Alain Giresse en tant que sélectionneur?
Eh bien, on va le demander à Thomas Moulin qui va vous répondre au nom du service des sports. Bonjour.
Bonjour Alassani, bonjour François.
Alors la Tunisie a fini quatrième de la CAN, son meilleur classement depuis son seul titre continental en 2004. Pourtant, Alain Giresse quitte les Aigles de Carthage. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer, Thomas?
Bah, c'est un peu compliqué à expliquer. Le communiqué de la Fédération tunisienne de football ne précise pas les raisons de cette décision. C'est vrai qu'à première vue, cela peut paraître surprenant. Il a rempli les objectifs qui lui avaient été fixés. Il n'était en poste que depuis 8 mois seulement. Il a été intronisé sélectionneur, on le rappelle, en décembre 2018 à la place du Tunisien Faouzi Benzarti. C'est sans doute que la greffe n'a pas pris. Et d'ailleurs, on l'a bien vu pendant cette CAN. Le visage qu'ont montré les Aigles de Carthage en Égypte a beaucoup posé question. Alain Giresse n'a pas échappé aux critiques dès la phase de groupe durant laquelle son équipe n'a pas été capable de remporter le moindre match, tenu en échec François par l'Angola, le Mali, la Mauritanie. Bref, des contre-performances qui font un peu tache pour une sélection mondialiste l'été dernier en Russie.
Oui, ces mauvais résultats donc ont accentué les tensions entre Alain Giresse et la fédération.
Ses choix étaient de moins en moins bien compris, ce qui a poussé la fédération tunisienne de football à agir. Elle n'a pas attendu la fin de la CAN pour limoger le seul membre du staff tunisien amené par l'ancien joueur de Bordeaux. Ce membre du staff, c'est le préparateur mental David Le Goff, un vrai compagnon de route d'Alain Giresse, puisque Le Goff avait été son adjoint lorsqu'il dirigeait les Lions du Sénégal, puis préparateur physique des Aigles du Mali, autre sélection africaine qu'a entraîné le coach français. Bref, le divorce commençait déjà à se dessiner et la qualification en demi-finale n'a rien changé. Alain Giresse a paru de plus en plus esselé au fil des matchs. Il a aussi chaleureusement félicité l'adversaire sénégalais à l'issue de la demi-finale perdue. Des déclarations qui n'ont pas beaucoup plu aux dirigeants du football tunisien.
Oui, Alain Giresse peut être pris dans la vague des changements d'entraîneur post-CAN.
Ah, c'est comme ça, François. À chaque fin de grande compétition internationale, c'est toujours la même chose. Des fins de cycle, des changements de sélectionneur en cascade. Alain Giresse, c'est le 13e entraîneur des 24 équipes engagées dans cette CAN 2019 à quitter son poste. On en est donc à plus d'un sélectionneur partant sur deux. Et ce n'est peut-être pas fini. Pour en revenir à Alain Giresse, les probabilités d'un départ étaient assez élevées, puisque la valse des entraîneurs, François, si je peux me permettre, c'est un symptôme très tunisien. Les Aigles de Carthage s'apprêtent à vivre un 11e changement de sélectionneur en 8 ans.
Oui, Alain Giresse qui n'est même pas resté 9 mois sur le banc de la Tunisie. Est-ce qu'on peut néanmoins tirer un bilan de son passage comme vous le demande Alassani?
Il est très contrasté ce bilan. Au niveau du jeu, on ne peut pas dire que son équipe, l'équipe tunisienne, nous ait vraiment enthousiasmé. Elle s'est surtout distinguée en Égypte par ses qualités défensives, même si les deux buts encaissés lors des matchs à élimination directe sont contre son camp. Malgré tout, les Aigles de Carthage ont eu le mérite de ne rien lâcher pour battre au tir au but en 8e le Ghana, un habitué des bons parcours à la CAN, pour dérouler en quart contre une équipe de Madagascar certes fatiguée mais qui en a embêté plus d'une en Égypte, et enfin pour pousser le Sénégal en prolongation en demi-finale.
Et désormais donc évidemment la question, Thomas, c'est qui pour le remplacer, quel nouveau sélectionneur?
Ouais, d'autant François que les éliminatoires de la prochaine CAN arrivent très vite, dès le mois de novembre. La Tunisie affrontera dans son groupe de qualification la Libye, la Tanzanie, la Guinée équatoriale. Rien d'insurmontable a priori, mais méfiance tout de même. Alors avec quel coach sur le banc, le mystère reste entier, mais un nom a émergé ces derniers jours, celui de Radi Jaidi, 43 ans, l'un des joueurs de la glorieuse épopée de 2004, actuellement à la tête des espoirs de Southampton en Angleterre. Il aurait les faveurs de la Fédération tunisienne de football.
Voilà, affaire à suivre. Merci Thomas Moulin. Bien sûr, tout cela, africfoot.rfi.fr pour suivre chaque jour l'actualité du ballon rond sur le continent. Merci à vous de rester fidèles à RFI, à Appel sur l'actualité. On se retrouve juste après le journal dans 10 minutes pour notre débat du jour. On parle de la lutte contre le paludisme ce matin.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent.